Bonjour, je suis Amélie Cordonnier. Bienvenue dans Secrets d'écriture, le podcast littéraire de la rédaction de Femmes Actuelles. Chaque semaine, un auteur ou une autrice partage avec nous ses secrets d'écriture. Aujourd'hui, nous recevons Valentine Gobi pour L'île haute, paru aux éditions Actes Sud le 17 août 2022. Ce 14e roman est une merveille, un somptueux récit initiatique à hauteur d'enfant. Il se déroule dans les années 40, en montagne, entre à pic, crevasses et glaciers. Hissez-vous là-haut avec Vadim, ce titi parisien des Batignolles qui, à 12 ans, vient seul, en plein hiver, sans ses parents. Soi-disant pour soigner son asthme. Mais en temps de guerre, la vérité est plus cruelle. Vous verrez, Valentine Gobi décrit à fendre l'âme l'arrachement, le manque et ses trous au cœur. Elle dit avec une beauté douloureuse ce qu'accueillir et aimer veut dire, ce que c'est qu'être une mère au-delà des liens du sang et une amoureuse haute comme trois pommes. Valentine Gobi va nous lire un passage qu'elle a choisi et nous livrera ensuite quelques-uns de ses secrets d'écriture. Écoutons-la. Bonjour Valentine Gobi.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir dans Secrets d'écriture pour ce qui sera mon dernier podcast littéraire pour Femmes Actuelles. Nous débutons toujours cet entretien par une question qui a peut-être l'air très simple mais qui ne l'est pas forcément. Comment définiriez-vous en un mot vos romans ou l'écrivaine que vous êtes ?
Organique.
Vous allez nous lire un passage que vous avez choisi. On vous écoute.
C'est leur troisième train depuis Paris. Jamais Vadim n'avait pris le train avant, un train qui distancie la ville. Il était trop anxieux pour être excité. Tout au long du trajet, à côté de la sœur, il a pensé « respire », s'est attaché à cette discipline infime, pomper, expulser l'air de ses poumons, seconde après seconde, 600 km d'incertitude fragmentée en milliers d'étapes sûres. Derrière la vitre embuée, il a à peine perçu les lambeaux de paysages défaits par la vitesse. Il a vaguement crayonné son carnet, s'était forcé à dormir, les omoplates poncées par le dossier en bois. La pluie est tombée drue aux abords de Lyon, s'est muée en neige fondue, puis en flocons serrés, une vision exagérée, quasi magique du froid. Chaque correspondance les enfonçait davantage dans l'hiver. L'hiver devait être la destination. Quand le brouillard a coulé jusqu'au talus de part et d'autre de la voie, le visage de la sœur s'est fermé. La météo, Vadim s'en moquait, inconscient de ce danger-là. Elle savait, elle, ce que signifiait être bloquée au pied du col. Et puis elle était vieille, fatiguée, le risque de ce voyage en soi suffisait. Évidemment, Vadim n'a pas vu la plaine du Shed. Il n'a pas vu la chaîne des Aravis. Il n'a pas vu les dômes, crêtes, aiguilles, sommets insoupçonnables au-delà des nuages. Il a vu des galeries compactes d'épicéa enserrer le train dans la montée. La rame luttait contre la pente et les branches ployées, lourdes de neige, rayaient la vitre du wagon comme des chevelures trempées. Il a vu un tunnel, un boyau plus obscur que l'air. Il n'a pas vu le viaduc arqué par-dessus l'Arve verte. Il n'a pas vu les rochers, les calottes neigeuses en surplomb, les glaciers écroulés, il n'en a pas idée. Le front appuyé à la fenêtre, au ras des rails, il a vu des branches hérissées dans le blanc avec des feuilles au bout. Il a imaginé des bras étiques hurlant au secours depuis le sous-sol gelé. Il n'a pas entendu l'annonce de l'avalanche. À ce moment-là, il déchiffrait un panneau planté sur le quai, intrigué par les sonorités familières en ce lieu complètement étranger. Chamonix. Il connaissait ce mot, Chamonix. Il se répétait distinctement les syllabes comme on piétine l'argile, un talon après l'autre, pour faire monter à la surface des cailloux enfouis. Chamonix, 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 jusqu'à ce que du fond de sa mémoire jaillisse l'image des petites brioches bombées fourrées de pulpe d'orange, glacées d'une pellicule de sucre qu'il grattait de l'ongle il y a longtemps, quand on pouvait acheter des gâteaux Chamonix. Il en projetait la vision sur le quai enneigé, couché sous papier translucide dans une boîte en carton l'alsacienne, et un mirage de biscuits se délitait sur sa langue et le sucre imaginaire agaçait ses gencives. Les toponymes contradictoires, l'Alsace de la marque l'alsacienne, à l'est de la France, il croyait se souvenir, Les Alpes, ici, plus au sud où se trouvait le panneau Chamonix, la confiture d'agrumes associée à un pays de soleil pour lequel il n'avait pas de nom, faisait voler en éclats ses notions de géographie. Où est-ce qu'on était, exactement ? Où, sur la carte dépliée par sa mère dans la chambre la veille du départ, à quel point du trajet grossièrement tracé, il se sentait perdu. Alors ce passage se situe au début du livre, ce n'est pas tout à fait les premières lignes, mais on est vraiment dans ce moment du grand départ. C'est un garçon qui s'en va, qui quitte tout ce qu'il connaît. On comprend qu'il laisse derrière lui beaucoup, une famille, une géographie, et qu'il arrive dans un lieu complètement inconnu, sans repère, pour lequel il n'a pas de nom, qu'il n'a pas imaginé, comme une espèce de planète étrangère, et que ce voyage-là est déterminant. Et c'est vraiment le point d'entrée dans le roman, parce que c'est l'histoire d'un exil qui deviendra une chance, mais pour l'instant on ne le sait pas. Et c'est l'histoire vraiment d'une perte totale de repères pour découvrir un monde totalement impensé dans lequel ce garçon va devenir un autre, véritablement. Ce 14e roman est arrivé de manière assez inhabituelle et aussi inattendue parce que c'était au moment du confinement. Ma vie, comme celle de beaucoup de gens, s'est arrêtée, notamment ma vie artistique parce que je terminais, ou en tout cas j'étais en bon chemin encore dans la promotion de mon roman précédent qui s'appelle Murène. Et j'avais un programme formidable de concerts littéraires, d'interventions en librairie, en médiathèque, d'ateliers d'écriture. J'étais absolument pas dans un moment où j'avais prévu d'écrire, sachant que pour moi, l'écriture, c'est vraiment une démarche très lente. J'ai une idée tous les 3 ou 4 ans, elle n'est pas toujours bonne. C'est pour moi assez miraculeux, en fait, d'avoir vraiment une ligne à laquelle m'accrocher pour écrire un roman, parce qu'un roman, ce n'est pas un sujet, c'est une espèce de nécessité qui ne peut pas exister s'il n'y a pas un projet littéraire derrière. Donc il y a plein d'idées formidables, mais si moi, j'ai l'impression que littérairement, je ne peux rien en faire, que je n'ai pas de... j'ai pas un projet à moi, vraiment, singulier, alors je n'écrirai pas. Et donc, je me trouve dans ce moment un peu obligée, hein, où on a cette injonction, les artistes, à transformer le vide en matière. Et moi, en fait, j'ai que le vide. J'ai que le vide, j'ai que l'angoisse, j'ai que cet appartement étriqué dans lequel je n'avais pas du tout prévu d'être enfermée. Et je venais de faire paraître dans une revue qui s'appelle Zadig un texte qui évoque la montagne de mon enfance, parce que la montagne fait partie de ma vie depuis très longtemps et qu'elle est un point d'ancrage vraiment très, très important. Et j'avais fait paraître donc cet article, écrit bien avant toute idée de confinement, qui racontait cette petite vallée du Val d'Alos, dans les Alpes du Sud, et les personnages qui la peuplaient, où j'ai appris à respirer, parce que j'étais une enfant très asthmatique, et qui est un espèce de territoire de contrepoint à celui très beau de mon enfance, mais très encombré aussi, qui est le territoire de mon père, le territoire des parfumeurs, où il était difficile d'avoir un prénom. On est toujours la fille, la nièce de, la cousine de quelqu'un, où il y a beaucoup d'héritage, et d'héritage, ça peut être beau, mais ça peut être pesant aussi. Et donc cette montagne-là, c'était un endroit où on était tous à égalité devant le paysage. Personne n'avait d'héritage et on se construisait chacun à notre manière. Et ça, enfant, ça m'a émerveillée, cette liberté. J'écris cet article dans Zadig, qui n'est pas du tout une fiction. Et mon éditrice, entendant un peu mon désespoir de ce grand moment de vide, où moi, je ne me vois pas écrire et j'arrive à me raccrocher à rien, elle me dit « Mais moi, je crois que dans ta montagne, il se cache un roman. » Et moi, qui suis quelqu'un qui cherche, qui va sur le terrain, qui interroge les gens, j'ai, je pense, dans mon écriture souvent, un processus de conquête ou de chasseresse. Je vais débusquer, voilà, dans la forêt des possibles, quelque chose, des personnages, une trame. Et bien là, en fait, j'étais rivée chez moi et la seule chose que j'avais, c'était l'écoute. Alors j'ai essayé d'entendre cette petite fille en moi, j'ai essayé de transformer cette immense soif d'émerveillement et de beauté qui m'habitait à ce moment-là en un projet. Et en effet, la montagne a surgi comme une espèce de secours. Je me suis vraiment, alors pour le coup, pardon pour la métaphore, mais je crois qu'elle est vraie me concernant, je me suis vraiment encordée à la parole de mon éditrice. Et j'ai décidé qu'elle devait avoir raison. Elle avait raison, c'était d'abord un travail très intérieur, puis un travail sur une carte, puisqu'on ne pouvait plus bouger. J'avais envie de parler d'émerveillement, de l'éblouissement des premières fois, de ce que ça fait de rencontrer véritablement un paysage et d'y trouver sa place. Et donc j'ai choisi une vallée dans laquelle je n'avais jamais mis les pieds, qui est devenue cette vallée du livre que j'habite aujourd'hui comme peut-être aucun lieu au monde, et que j'ai fini par aller traverser avec mon corps, bien sûr, une semaine tous les mois, pendant un an et demi, avec des attestations de travail, puisque c'était un travail. J'ai fini par rencontrer non seulement ce paysage totalement magique, parce qu'en période de confinement, déserté par les touristes, la mécanisation, c'est déjà une vallée assez isolée, mais là, il faut dire qu'elle était quand même rendue à une sorte de sauvagerie qu'on n'avait pas vue depuis fort longtemps, d'autant que l'hiver était un hiver exceptionnel, de neige, avec le col vraiment fermé, tel que je le décris dans le livre. Peut-être pas autant de neige, mais en tout cas, cette impression-là, voilà, à la fois de refuge, de réclusion, qui est très forte. Et puis, j'ai rencontré des gens, puisque la montagne, ce n'est pas seulement un paysage, ce sont des gens, et ils ont nourri ce projet. Et donc, c'est vraiment un livre qui est né différemment des autres, qui, j'espère, en fait, ouvre des chemins d'écriture un peu différents pour moi maintenant. Maintenant, je crois que j'ai compris, enfin, j'espère que ça durera, que j'ai peut-être plus de ressources en moi que je ne le crois, que mon imagination est peut-être une réserve plus foisonnante et intéressante que je ne l'avais perçue jusque-là. Alors, lorsque Vadim arrive à la montagne, c'est vraiment un personnage étranger au décor, comme ces petits bonhommes qu'on découpe quand on est enfant et qu'on fait évoluer contre un paysage. Il y a quelque chose de très détouré. Il y a d'une part la montagne, qui est cette énormité, et d'autre part, ce petit bonhomme, en effet, et cette neige en plus colossale lui masque complètement les reliefs, au point qu'il imagine d'ailleurs, puisqu'il a appris dans les manuels scolaires que la neige fondait, au point qu'il imagine que la montagne pourrait s'écrouler dès lors que les saisons changent. Et les saisons, en fait, vont peu à peu fusionner ces deux personnages que sont ce garçon de 12 ans, et la montagne. Petit à petit, en fait, avec la fonte de la neige, la révélation d'un paysage esthétique, certes, d'une faune, d'une flore, tous ces sens sont en éveil, hein, les odeurs, les couleurs, les sons, bien sûr, les goûts, mais aussi les gestes, puisque un paysage de montagne dont la neige disparaît, c'est un lieu qui se cultive, c'est un lieu d'élevage, c'est un lieu où on fabrique tout. La manière dont on s'habille, les maisons, la nourriture. Donc tous ces gestes-là, petit à petit, vont faire de lui un enfant sculpté par la montagne. La couleur de sa peau change, ses muscles vont se former, la couleur de ses cheveux va changer. De l'intérieur même, tout son paysage va être recomposé par les sensations qui lui entrent dans le corps et cette vie communautaire à laquelle il va participer, si bien qu'en fait, il devient une montagne. C'est un peu ça l'histoire de Steve, c'est l'histoire d'un garçon qui devient une montagne. Et à la fin, alors ce paysage qui est sans doute voilà le deuxième grand personnage du livre ne fait plus qu'un avec ce garçon qui d'ailleurs va, je ne dirai pas quel est le nom qu'il va choisir, mais va se renommer avec un nom qui lui donne véritablement des racines et qui fait de lui une entité à part entière de ce grand vivant dans lequel il est arrivé au départ étranger. Alors ce jeune garçon, quand il quitte Paris, il s'appelle Vadim, et quand il arrive dans cette vallée, il porte un autre nom, qui est celui de Vincent. Alors on est dans les années 40, et si cet enfant est vraiment asthmatique, c'est le motif officiel pour lequel il part dans cette vallée, réapprendre à respirer. Il souffre évidemment d'un autre asthme métaphorique. C'est un grand asthme de l'époque, puisqu'il fait partie de ces populations persécutées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il part donc doublement pour sauver sa vie. Non seulement parce qu'il doit apprendre à respirer, mais parce que la menace sur sa famille pèse terriblement. Et que l'arrachement, en fait, qui est le sien au départ, c'est aussi une chance pour lui de vivre ailleurs et simplement de survivre. Alors, il y a beaucoup de V dans ce livre. Il n'y a pas que l'autrice qui s'appelle Valentine. Il y a Vadim, en effet, ce petit garçon, c'est un prénom russe. Certains vont imaginer que c'est un prénom juif, mais c'est un prénom russe, avant toute chose. Il devient Vincent. C'est le prénom d'un autre petit garçon dont il va hériter des papiers d'identité en gardant ce V-là, qui est une espèce de corps céleste pour moi. Ça ressemble aux ailes d'un oiseau. Finalement, cet enfant-là, on l'a assigné à des identités dont il n'est même pas sûr qu'il leur appartient. Lui, il découvre en fait qu'il est juif. Il ne le sait pas. Il y a toujours cette grande question. Un prénom, vraiment, ça vous assigne. Et ça peut vous libérer aussi. C'est un enjeu très important, le prénom. Monette, c'est une petite fille, mais c'est peut-être aussi une créature, comme ça, surgit de la forêt. On ne sait pas très bien, elle a l'air tellement d'appartenir au paysage. Et en même temps, elle a des dons, elle semble connaître les secrets du village, ce qui se cache sous le clocher, les gens qui traversent la nuit après le couvre-feu, mais elle connaît aussi toutes les créatures, le nom des plantes, les saisons. Elle est cette passeuse à la fois espiègle et très très sérieuse, parce qu'elle a une mission quand même, hein. C'est elle qui doit montrer le chemin à Vincent. Et à la fois, elle est l'étrangère de Vincent, mais il est aussi son étranger. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de réciprocité, d'émerveillement qui se construit entre eux. Lui a besoin d'elle, absolument à chaque pas, puisqu'il ne comprend rien, à rien. Et elle découvre à travers lui la possibilité d'un monde autre. Elle n'a jamais traversé le col. Elle ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté du col. Et voilà un garçon qui arrive. Il n'a jamais vu de vache, il n'a jamais vu de cochon, il n'a jamais vu de forêt, il n'a jamais vu de neige, il n'a jamais vu la cousse, il n'a jamais vu de glace. Ça paraît tout à fait impossible et improbable à imaginer pour elle. J'avais aussi envie de construire ce rapport d'étrangeté qui est très mystérieux et joyeux en même temps. La figure de l'étranger, elle est toujours indispensable pour qu'on redécouvre le monde qui nous est si familier. Par exemple, cette petite fille, comme d'autres habitants du village, pour la première fois se met à regarder la montagne. Cette chose tellement bizarre pour Vincent et familière pour eux. Donc, il y a une complicité très forte qui se construit entre eux. Elle est plus jeune que lui. Elle est très, très fascinée quand même par ce garçon à la peau pâle, aux veines bleues, qu'elle trouve très beau, bien sûr. Elle est un peu jeune pour lui, donc il ira plutôt regarder du côté des jeunes filles, de son côté. Et donc, ça va créer aussi... En plus de ce rapport qui est à la fois d'amitié, de fraternité entre eux, c'est très très fort, quoi. C'est très fusionnel. Et ça peut aussi créer un rapport de tragédie parce que l'enfance, l'adolescence, ce sont des âges où l'on trahit. On trahit parce que on est en rupture vis-à-vis de sa famille, on va faire d'autres choix. On a besoin d'épouser l'altérité. On a besoin de grandir à travers des passeurs qui vont nous initier à des mondes inconnus. Le monde inconnu, c'est pas seulement la montagne, c'est aussi la sensualité, par exemple, pour Vincent, qui à travers Olga va connaître des expériences qu'il ne peut pas vivre avec Moinette parce qu'elle est beaucoup trop jeune, trop petite fille. Et donc, c'est un roman d'initiation dans lequel il y a énormément, évidemment, la question... Voilà, de la loyauté, de l'arrachement, des choix qu'on fait pour soi et qui nous obligent à ne pas nous retourner en arrière. Mais c'est une métaphore de la vie telle que nous la connaissons tous, finalement. Le narrateur dans ce roman, il est extérieur. Mais en effet, c'est par les yeux de ce garçon qu'on voit tout. C'est-à-dire que lorsqu'il n'est pas dans une scène, il n'y a pas de scène. On a à la fois la grande amplitude que nous donne son imagination, mais ce n'est pas... un livre écrit à la première personne parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est tout en étant vraiment à hauteur de cet enfant-là, c'est de pouvoir quelquefois le situer dans le paysage. Pouvoir le regarder comme faisant partie de cet univers, petit à petit, s'y fondant, ce qui ne serait pas possible si le roman était écrit à la première personne. Mais l'idée que ce soit un enfant qui arrive dans cette étrangeté, c'était pour moi très important parce que finalement, je crois que ce qui m'intéresse au plus haut point, au-delà de l'enfance, c'est l'état d'enfance. Et c'est pas tout à fait la même chose. Je me sens moi-même dans un état d'enfance qui est un trésor que j'ai retrouvé, je pense, avec l'écriture de ce livre. Mais l'état d'enfance, C'est une espèce de disponibilité au monde qui fait que on est extrêmement réceptif à ce qui arrive ici et maintenant, avec tous les sens, qu'on est capable peut-être de tenir à distance le tragique pour tenter de voir justement dans l'immédiateté ce qui est beau et nourrissant. Ça ne veut pas dire être insouciant, mais c'est l'idée que les possibles redeviennent ouverts. Cet état d'enfance-là déborde la période de l'enfance, qui peut être une période pour certaines personnes extrêmement tragique. Mais cet état de disponibilité-là, je crois, est vraiment ce qu'il y a de plus nécessaire vraiment dans ce roman. Donc, il était très important pour moi que ce soit ce regard-là qui soit posé sur le monde à un moment où il y a des menaces réelles, mais il y a de vraies raisons aussi de voir la lumière. Quand il arrive dans cette vallée, en fait, il n'a aucun outil pour comprendre le monde qui est autour de lui. Il est comme un nourrisson. Moi, j'aime beaucoup la figure des nourrissons. Dans mon travail de romancière, il y a beaucoup de personnages qui incarnent des figures de nourrissons. Cet enfant-là, il a beau avoir appris la géographie dans les livres, on lui a appris la définition d'une montagne, parce que c'est des versants, des calcaires, des schistes. Il a étudié une frise historique, mais la manière dont les gens vivent, le quotidien de la montagne, la sensation de la montagne et de ses saisons, c'est absolument impensé. Donc, c'est vrai que c'est un apprentissage qui est très très lent, qui passe par l'observation, qui ne peut pas être aidé par un mode d'emploi ou un dictionnaire. C'est vraiment l'idée aussi que l'expérience est irremplaçable. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est une expérience d'immersion extrêmement soudaine, extrêmement brutale et en même temps d'une grande douceur parce que c'est un paysage qui est très enveloppant. Ce sont des gens qui l'accueillent sans condition. On ne sait pas ce qu'ils savent vraiment de lui, mais ils ont décidé qu'il ferait partie des leurs. Ce qui est difficile pour lui, paradoxalement, c'est moins d'apprendre que d'abandonner. Parce que son père est en danger, il a disparu. De sa mère, il va recevoir une ou deux lettres, pas davantage. Donc il ignore tout de ce qui arrive à sa famille, tandis que lui est en sécurité. Il y a probablement une grande difficulté à accepter ce privilège et en même temps aussi une grande culpabilité à éprouver ce plaisir de devenir un autre. Savoir que finalement, il est assez doux de se laisser pousser des racines et ne pas le regretter. Il arrive, donc Vincent Vadim, dans cette famille qui est une famille sans enfants. Et il va véritablement être accueilli comme l'enfant de la famille. Donc il y a dans cette maison plusieurs générations. Il y a Louis, qui est le pépé, Blanche et Albert, qui sont mariés. Et Éloi, qui est le frère jumeau d'Albert. Et donc, il n'y a pas d'enfant. Il arrive vraiment comme une sorte de fraîcheur dans cette famille qui est très taiseuse, comme beaucoup de gens de la montagne, à l'exception peut-être de Blanche, parce qu'elle vient de Marseille au départ, elle est arrivée là par amour, et donc elle a quand même une façon de l'accueillir qui passe essentiellement par les gestes, mais qui peut nommer aussi. Et tous ces gens-là vont accompagner son appréhension du monde à travers leurs gestes. Le mari de Blanche, donc Albert, il est à la fois menuisier, charpentier, cordonnier, enfin, il est valorsin, c'est ce qu'il aime dire, c'est-à-dire qu'il sait tout faire. Le père de Vincent, son vrai père, le père de Vadim, est lui-même cordonnier. Et donc, à travers aussi l'apprivoisement des gestes de cet autre homme, il va petit à petit entrer dans un univers par une porte familière et apprendre tout ce qu'il ignore jusque-là. Et puis, il y a un moment qui est très, très important. C'est le jour où le pépé de la famille, qui n'est pas encore grand-père, lui demande de l'appeler Pépé, vraiment. Et ça referme derrière lui le col des Montais, plus sûrement que n'importe quelle autre expérience. À partir du moment où il accepte d'appeler cet homme Pépé, il choisit vraiment un autre ancrage. Il y a un basculement dans sa vie qui s'opère. C'est vraiment une sorte de révélation. C'est presque miraculeux pour lui parce que finalement, il fait partie de cette maison comme le cochon, comme la vache, comme chacun des membres de cette famille. En fait, il a une place et elle n'est pas contestée ni contestable. Je pense que le sentiment insulaire est vraiment très montagnard. Hein. C'est-à-dire que c'est l'insularité et la montagne, ce n'est pas du tout contradictoire. C'est l'idée du retrait, c'est l'idée du refuge aussi. Alexandre Vialat parlait de l'Auvergne comme du Nil. Mais ça, je ne l'ai su qu'après avoir choisi ce titre. Ça me conforte dans ma décision finale. Mais c'est surtout que je voulais rendre compte du regard de ce garçon. Lui, ce qu'il voit, c'est une île, parce que pour lui, une île, c'est quelque chose qui est éloigné du reste du monde. C'est en effet l'idée de peut-être de la protection, de la solitude. Il vient de la ville, hein, et il se rend compte qu'il est dans un univers où il y a beaucoup de silence, ouais, beaucoup d'espace. Et puis il y a cette forme qui émerge comme ça au-dessus de la vallée. Pour lui, c'est une île haute. Et nous, nous pensons toujours avec notre propre expérience et puis nous vivons dans un monde saturé d'images. Même quelqu'un qui n'est jamais allé à la montagne a déjà l'impression d'avoir une expérience de la montagne parce qu'il a vu des images. Lui, rien. C'est vraiment une planète étrangère. Donc, il a le vocabulaire qu'il a. Et avec ce vocabulaire-là, il essaye de nommer ce qu'il a en face de lui. Et ce qu'il voit, c'est une île haute.
Valentine Gobine, maintenant, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous répondiez à notre traditionnelle interview du Tac au Tac. Vous êtes prête ?
Je suis très, très mauvaise à ces trucs.
Êtes-vous une écrivaine diurne ou nocturne ?
Diurne.
De la semaine ou du week-end ?
Ça dépend. Mon emploi du temps change tout le temps, donc je n'ai pas de moment d'écriture.
Plutôt canapé, lit ou bureau ?
Lit, j'ai mal au dos.
Solitude ou bistrot ?
Solitude.
Carnet ou ordinateur ?
Ordinateur.
Robert ou Larousse.fr ?
Larousse.fr.
Première ou troisième personne du singulier ?
Troisième personne du singulier.
Présent ou passé ?
Présent.
Whisky ou café ?
Whisky et café.
Chocolat ou cigarette ?
Ni l'un ni l'autre.
Et musique ou silence ?
Silence.
Est-ce qu'il vous est arrivé, Valentine, d'écrire dans un état second et vous avez le droit d'entendre état second comme vous le souhaitez ?
Il y a quelque chose de l'ordre de la transe quelquefois dans l'écriture, c'est vrai. C'est un état extrêmement joyeux d'ailleurs. Hein.
Pour vous, qu'est-ce qu'une journée d'écriture réussie ?
C'est quand le lendemain, je relis le paragraphe ou la page que j'ai écrit et que je n'ai pas envie de le jeter à la poubelle.
On aime ces journées. Quand vous vous lancez dans l'écriture d'un roman, que rédigez-vous en premier ?
La première phrase.
Et la fin, est-ce que vous l'avez avant de vous lancer ou est-ce qu'elle vous vient à mesure que vous écrivez ?
En fait, j'ai un arc narratif qui peut dévier, comme tous les voyages. Hein. Généralement, j'arrive à peu près à destination, mais par des chemins quelquefois improbables.
Qui est votre premier lecteur ?
Mon amoureux.
Quelle faute d'orthographe colle à votre stylo ?
En fait, je ne fais pas tellement de fautes d'orthographe, mais je suis ultra dyslexique. En fait, non, je mélange tout le temps les lettres, donc il y a beaucoup de mots qui ont des lettres inversées tout le temps. Donc, je laisse toujours des coquilles, même après relecture, mais voilà.
Est-ce qu'il y a un mot que vous détestez et que vous n'employez jamais ?
J'ose pas le dire ici.
Allez-y, dites-le nous.
Non, il y a des mots dont la sonorité et l'image sont assez rudes. Par exemple, prépuce.
Remarque, l'autre jour, on a eu gland, donc en même temps, c'est bien, on reste cohérent.
Mais il y a aussi des mots qui m'énervent, parce que c'est des mots qui sont un peu dévoyés dans leur sens et qui reviennent à toutes les sauces et c'est insupportable.
Par exemple ?
Résilience.
Ah, je pensais que vous alliez dire inspirante.
Ah non, mais résilience, en plus, on me le sort constamment dès lors qu'on évoque mes romans et j'ai de quoi me défendre. Ce mot-là est compliqué, je trouve.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a un mot, à l'inverse, que vous aimez beaucoup et que vous employez très souvent ?
Eh bien, je ne me rends pas compte, mais certainement, mon éditrice pourrait vous répondre mieux que moi.
Est-ce que vous avez un tic d'écriture ?
J'imagine que j'aime bien les séries, les inventaires, les successions. Je trouve que ça crée une sorte de musicalité poétique. Alors, dans chacun des univers qui sont ceux de mes livres, hein, ça peut être en rapport avec la montagne, l'appareillage, la natation, l'eau. Mais j'aime beaucoup les inventaires et les listes. Je trouve que ça a un caractère hypnotique.
Quel est le livre qui a marqué votre enfance ?
Qu'est-ce que vous appelez enfance, en fait ?
Comme vous l'entendez, mais en tout cas, qui a marqué vos premières années de lectrice, que vous étiez, que vous soyez enfant ou adolescente, mais...
Je crois que les premiers livres dont je me souvienne vraiment, c'est les livres que j'ai lus aux alentours de la 5e, 4e. C'est des livres du 19e siècle, parce que c'est ça qu'on nous faisait lire à l'école. C'est des Zola, c'est des Hugo. Mais alors vraiment, avec une grande... récurrence pour Zola et Hugo, et les livres que j'ai relus le plus dans ma vie, ça doit être L'homme qui rit, Les Misérables, Germinal. Voilà, j'étais tellement emportée par ces écritures qui vous prennent, mais de toutes parts, quoi, qui vous emmènent dans l'histoire, qui vous font voyager dans des temps, dans des lieux qui sont impossibles en fait. C'est ça que je trouvais extraordinaire dans la littérature, c'est qu'elle pouvait m'emmener là où aucun voyage ne pourrait m'emmener.
Est-ce qu'il y a un livre qui vous a fait pleurer ?
Oh, il y a plein de livres qui m'ont fait pleurer, ouais. Parfois, on pleure de beauté, hein ?
Oui, et moi je pleurais de beauté pour votre livre.
Il y a, par exemple, Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Par exemple, Beloved de Toni Morrison. Par exemple, L'Amant de Marguerite Duras. Par exemple, Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo. C'est des livres, au bout de la 20e lecture, je reste fébrile.
Avec quel écrivain vivant ou mort aimeriez-vous dîner, Valentine Gobi ?
Oh, je dîne déjà avec beaucoup d'écrivains, vivants en tout cas, pas morts.
Alors, il y en a un mort avec qui vous aimeriez dîner ou pas ?
À Charlotte Delbo, sans hésitation.
Est-ce que vous avez débuté l'écriture de votre prochain roman ? On a compris que vous alliez surtout dans la promotion, là.
Oui, non, moi, je suis une terre en jachère. J'ai vraiment besoin de temps entre deux romans. Quelquefois, j'entreprends quelque chose de très différent, l'écriture d'un livre pour la jeunesse ou d'un album, une adaptation BD. Donc là, il y a en effet des projets, mais qui ne me distraient pas quand même de cet ombilic que j'ai encore très très vivant quand même avec l'île haute. Et ça va rester le cas, c'est pas rare que pendant un an, hein, j'ai pas du tout d'autres projets de romans, parce que c'est tellement long et tellement dense de créer un univers comme ça. On passe des années et des années à le faire surgir. J'ai envie d'y habiter un peu.
Ce sera ma dernière question. Valentine Gobi, est-ce que vous nous avez confié tous vos secrets d'écriture ou en avez-vous gardé quelques-uns pour vous ?
Bah évidemment que j'en ai gardé quelques-uns pour moi.
Il manquerait plus que ça. Un grand merci en tout cas.
Merci à vous.
Merci à Valentine Gobi et aux éditions Actes Sud. Je rappelle que L'île haute a paru le 17 août 2022. Si ce podcast vous a plu, ce que j'espère vivement, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous laisser vos commentaires. Et puis, pour découvrir de nouveaux secrets et les coups de cœur de la rédaction, rendez-vous en kiosque ou sur le site femmeactuelle.fr. Au revoir !